Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, à qui appartient l'espace public ? Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner, écrit Georges Perec dans son essai Espèce d'espace, essai dans lequel il interroge par ailleurs cette sensation d'évidence à nous dire que nous vivons dans un espace. La question de l'appropriation de l'espace public peut sembler redondante selon la chercheuse Alice Béja, qui écrit que si les lieux publics relèvent de règles garanties par l'État, l'espace public, lui, bien qu'organisé par ce dernier, a vocation à être habité par tout un chacun. Ce qui implique une notion d'égalité de base entre ses occupants qui n'est pas toujours vérifiée dans les faits. Ainsi, les tandems hommes-femmes, pauvres-riches, états-citoyens s'y confrontent pour interroger la mécanique de l'espace public. Poser cette question, en fait, de l'appropriation, c'est déjà l'occuper cet espace, s'y questionner à l'intérieur et s'y questionner dans ce contexte si particulier où l'impératif sécuritaire peut remettre en cause ces notions d'égalité, de liberté, de circulation. L'espace public, c'est l'espace de la démocratie, de la pluralité des discours et des usages, déclare Pascal Lebrun-Cordier, directeur des zones artistiques temporaires de Montpellier. C'est un espace, dit-il, qui doit être conflictuel. Mais alors comment articuler ce conflit de discours et d'usage dans cet espace mouvant sans en perdre le contrôle ? Dans quelle mesure est-il possible de s'approprier l'espace public sans en faire un facteur d'exclusion ? Et dans ce contexte où l'État et le droit investissent de manière de plus en plus visible l'espace public, à qui appartient-il ? C'est notre sujet du jour. Trois invités pour en parler ce soir et non pas quatre, comme je l'annonçais avant 18h. Nicolas Jounin est malheureusement bloqué sur la route. Chris Blache, bonsoir, vous êtes avec nous en plateau.
Bonsoir.
Vous êtes consultante et socio-ethnographe, cofondatrice de l'association Genre et Ville, que vous présentez comme un think tank et un do tank, une plateforme de pensée et d'action qui vise à penser les territoires à travers la question de genre et les inégalités que cela suppose. Nous allons en parler plus en détail, bien sûr, au cours de cette émission. Au téléphone, Alice Béja est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences à Sciences Po Lille, spécialisée dans l'histoire des idées, des mouvements protestataires et des gauches américaines, ancienne rédactrice en chef de la revue Esprit. Vous avez notamment publié L'espace public bien commun par excellence. Avec vous au téléphone, c'est Stéphane Tonnelat. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ethnographe chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Sirius de la New York University. Alors, quand on a commencé à penser ce plateau, à penser ce sujet à qui appartient l'espace public, on ne se doutait pas dans l'équipe qu'un autre débat prendrait autant de place dans l'actualité ces jours-ci. C'est bien sûr celui centré autour du burkini et de son interdiction sur certaines plages de 8 municipalités françaises. Alors, on ne va pas du tout recentrer ce débat sur cette unique question, je vous rassure d'emblée, mais juste... une question pour commencer sur cette interdiction dans un espace public, en l'occurrence la plage, un espace anonyme, l'espace anonyme par excellence. Qu'est-ce que ça dit en ce moment de l'espace public tel qu'il est perçu par les autorités politiques, Chris Blache ?
Ça nous dit que l'espace public est éminemment politique et que c'est une prise de pouvoir très forte qui vise à porter une forme de ségrégation. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, je vais reprendre le titre de l'émission, on redonne du grain à moudre à une forme d'oppression des femmes, quelque part. Il s'agirait, à travers une action comme celle-là, de protéger les femmes. Alors déjà, dans le terme « protéger », on voit bien qu'il y a un caractère paternaliste qui est fort. La deuxième chose à dire, c'est que protéger, en fait, c'est laisser libre. Et cette liberté, liberté de s'exprimer, elle est importante à mes yeux. Ce qui se passe avec l'histoire de la burqa, comme c'est l'histoire avec le voile, c'est que, en définitive, les femmes sont utilisées, une fois encore, pour mettre en place des mesures sécuritaires ou pour pointer vers une certaine communauté. Donc, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des oppressions culturelles qui puissent exister. Nous en vivons aussi dans nos propres cultures, dans des cultures chrétiennes également. Ce qui est très important de dire, c'est que dans ce contexte-là, on est en train de faire vivre aux femmes une double peine. Et je pose la question, est-il plus important pour ces femmes de lever le voile ou d'aller à la piscine ? Nous, on a un cas où on a travaillé, on travaille sur Villiers-le-Bel en ce moment, et on travaille avec des femmes avec qui on discute. Et elle disait l'autre jour, il y a certaines femmes qui ne sont pas à l'aise pour aller à la piscine. Et il y a des moments où elles voudraient avoir un temps pour elles. Ça ne peut pas forcément dire que c'est lié à la culture musulmane. Ça fait simplement dire qu'elles veulent pouvoir faire des choses qu'elles ne se sentent pas autorisées à faire. Et donc, je trouve que ce n'est pas le bon moyen, ce n'est pas la bonne approche pour régler ces questions-là. Ce sont des questions beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtiles, et on est en train de faire un débat caricatural qui va nous pousser vers les extrêmes et qui est tout à fait contre-productif.
D'ailleurs, si on recentre sur vraiment l'interdiction de ce burkini dans l'espace public, sur la plage, Alice Béja, vous écrivez dans l'un de vos articles que l'État cherche à affirmer son autorité dans tous les espaces, y compris dans l'espace urbain. Vous écrivez, je vous cite, « des interdits naguère réservés aux lieux où exercent leurs représentants et par conséquent soumis au principe de neutralité se trouve étendue à la rue où pourtant on devrait pouvoir faire ce que l'on veut, évidemment tant qu'on ne provoque pas de troubles à l'ordre public ». Alors, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui ce débat autour de l'interdiction du burkini, de la conception politique et juridique de l'espace public aujourd'hui ?
Oui, alors je suis d'accord avec Chris Blash, il y a une utilisation tout à fait politicienne de cette polémique en ce moment sur laquelle il ne convient pas d'épiloguer. En revanche, oui, ça s'inscrit très clairement dans une progression, disons, de l'emprise de l'État sur l'espace public avec donc une extension. C'est-à-dire qu'au départ, le principe de neutralité, dont on peut d'ailleurs discuter, hein, mais donc s'applique aux personnes qui travaillent pour l'État, donc aux fonctionnaires. Après, on va l'appliquer à certains lieux publics aux personnes qui y viennent, on songe à l'école par exemple, bien entendu, et puis ensuite on va l'étendre à l'espace public, la rue, la plage, la place, ce qui pose problème puisque l'espace public ça n'est pas l'État. Ça n'est pas le lieu qui appartient à l'État. Théoriquement, il appartient à tous, encore une fois, bien entendu, dans la limite de la notion de trouble à l'ordre public, qui là aussi va être réinterprétée. Je rappellerai aussi simplement que sur cette question du burkini, pour le coup, la justice ne s'est pas encore prononcée. Pour l'instant, il s'agit
Alors,
de...
Alors, apparemment, le juge des référés a validé la décision de la mairie de Cannes d'interdire le burkini. Il va notamment dans le sens de risque à l'ordre, de trouble à l'ordre public.
Voilà, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on définit comme.
Voilà, c'est ça. C'est justement ma question. Est-ce que ce serait nécessaire de redéfinir le trouble à l'ordre public dans un espace public ? Stéphane tonne là sur cette question.
C'est ce qui est en train d'être fait.
Merci pour la parole. Je suis pas sûr qu'on m'entend.
Si on vous entend.
Juste revenir sur la question auparavant, je suis d'accord avec ce que les deux intervenantes ont déjà dit. Il me semble que pour renforcer encore la confusion qui est créée aujourd'hui autour des questions de l'égalité de ces tenues dans l'espace public et tient aussi à la notion de public. C'est-à-dire que on a l'impression que de plus en plus le public c'est l'État. C'est-à-dire que au lieu que le public délègue à l'État une certaine partie des territoires urbains pour en assurer la gestion et le servir, c'est le contraire. C'est l'État qui prête aux citoyens et au public en général des espaces sous son contrôle. Et donc, on comprend que l'interprétation de la loi, du coup, déborde le cadre de la loi de laïcité de 1905 pour arriver jusqu'à des espaces qui, jusque-là, n'étaient pas du domaine de l'État.
Alice Béja, je voudrais vous entendre sur cette question parce que vous aviez commencé à répondre justement sur cette nécessité ou non de redéfinir le trouble à l'ordre public dans un espace public.
Non, mais voilà, c'était très exactement ce que je voulais ajouter, cette confusion totale entre l'État et le public. Donc je n'ai absolument rien à ajouter à ce qui vient d'être dit. Et donc le trouble à l'ordre public est redéfini pour accentuer la mainmise de l'État sur l'espace public qui devrait être ouvert à tous.
Ça pose la question de la sécurité, de la conception de la sécurité, de la conception sécuritaire en fait de l'espace public aujourd'hui. Stéphane Tonnela, vous dites que les espaces sont publics, enfin que les espaces publics en fait ne le sont pas tant que ça. Vous parlez des parcs notamment où des gardiens refusent de laisser entrer des réfugiés ou des sans-abri qui créent de l'exclusion sous prétexte de questions sécuritaires. Est-ce que la sécurité peut tuer, si on emploie un grand mot, l'espace public ?
Alors oui, bien sûr, en sociologie d'ailleurs on utilise plus souvent que la notion de propriété pour définir l'espace public, hein, c'est-à-dire serait public ce qui est du domaine de la propriété de l'État, on utilise plutôt la propriété d'accessibilité. Et donc on essaye de dire un espace public, c'est un espace qui est accessible à tous. Alors au lieu d'être une définition descriptive, hein, en disant voilà, c'est la propriété qui définit l'espace public, c'est une définition plus normative. Et donc on peut mesurer le degré de publicité d'un espace à son accessibilité. Donc un espace où effectivement les sans-abri, les femmes, les sans-papiers ne sont pas les bienvenus, ne serait pas un espace si public que cela.
Chris Blash, sur cette question. Vous travaillez beaucoup sur cette question au sein de Jean Réville, sur l'accessibilité, sur cette notion de sécurité.
Oui, en fait, on essaie de démonter cette question de sécurité, parce que, comme ça vient d'être dit, c'est un outil de réduction de l'espace, j'ai envie de dire en trois dimensions. On voit en permanence cet espace qui est recapturé par l'État. Alors c'est un jeu un peu pervers parce qu'on a l'impression, alors on délègue à l'État un certain nombre de fonctions qui sont censées nous protéger et qui nous enferment. Et donc à travers ça, on voit effectivement une réduction de l'espace public et qui va en premier lieu du coup faire sortir de l'espace public les personnes qui étaient déjà qui s'y sentaient en tout cas les moins légitimes, parce que je n'estime pas qu'il y ait des personnes qui aient plus de légitimité que d'autres. Mais il y a des personnes qui vont se sentir plus légitimes dans l'espace public que d'autres. Et dans ce contexte-là, ce sont ces personnes-là qui vont souffrir.
Et en l'occurrence, les hommes, donc, voilà. Puisque vous travaillez sur cette question.
Absolument.
Précisément.
Donc, cette question-là de resserrement de l'espace public, pour nous, elle est cruciale. Et dans le travail qu'on peut faire à travers l'égalité femmes-hommes, on se rend compte qu'en plus, et c'est ce que je disais par rapport au burkini tout à l'heure, c'est qu'on se sert très souvent des femmes pour mettre en place ou de personnes qu'on va qualifier des plus faibles, ça va être les enfants, ça va être les personnes âgées, pour renforcer des systèmes de sécurité, c'est-à-dire qu'on va dire mais puisque les femmes sont en danger, ce qui n'est pas une chose avérée, hein, puisque les chiffres montrent que ça n'est pas le cas, même si on ne peut pas renier des violences, hein, je ne minimise pas du tout cette partie-là, mais les femmes sont parfois beaucoup plus en danger dans l'espace privé que dans l'espace public. Donc sur cette question d'espace public, néanmoins, on continue à dire que cet espace est dangereux pour les femmes, et à travers ça, on va mettre en place toute une panoptique qui va exclure finalement un ensemble de personnes, l'ensemble des personnes de l'espace public, sous prétexte de ramener de la sécurité pour les femmes. Donc remettre plus de lumière, remettre plus de caméras, fermer les espaces, continuer dans les résidentialisations. Nous, on essaie de lutter contre ces résidentialisations dans tous les travaux.
Qu'est-ce que vous appelez
faire.
La résidentialisation?
Ça veut dire tous les espaces qu'on enferme, qu'on privatise. J'ai des exemples très très concrets où on travaille, par exemple, je parlais de Villiers-le-Bel tout à l'heure, mais à Aubervilliers, on a pu entendre les mêmes choses, à Montreuil aussi, etc., où des gens disaient, mais il y a 20 ans, toutes les communautés se parlaient. On était dans l'espace public, il y avait des bibliothèques en plein air, il y avait un ensemble de choses qui se passaient dans l'espace public. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Tout le monde est enfermé dans ses résidences, il y a triple code, etc. C'est pour ça que nous, on a lancé un hashtag qui s'appelle 50 nuances de grille, pour jouer autour de ça et pour montrer l'ensemble de la façon de aujourd'hui, dans la France, pas que la France d'ailleurs, s'enferme à travers toutes ces grilles et tous ces codes, et qui font qu'on a de moins en moins de perméabilité et un rétrécissement de l'espace public, et dans ce rétrécissement finalement une difficulté à communiquer, à occuper cet espace librement voilà, si je peux conclure de cette façon.
Alice Béja, vous dites que cette question de la sécurité nous mène à une tendance vers la privatisation des espaces public.
Mais en fait, il y a plusieurs dangers, enfin, qui ont été déjà évoqués par les deux intervenants, qui guettent l'espace public, qu'on pourrait, disons, synthétiser en trois. Donc, le premier, c'est la privatisation, qui va effectivement avec la résidentialisation, aussi tout simplement, je pense, aux fan zones pendant l'euro, où voilà, on groupe des gens dans un espace où il n'y a que certaines marques qui sont autorisées à vendre leurs biens, etc. Donc, la privatisation. La patrimonialisation ou la muséification, c'est-à-dire organiser l'espace public autour de fêtes, de célébrations, de tel ou tel aspect du patrimoine, ce qui n'est pas en soi négatif, hein, bien sûr, mais ce qui limite l'utilisation de l'espace public à une chose et qui permet aussi de dessiner des zones. Et enfin, l'hypersécurisation, parce que bon, il y a un besoin quand même d'une certaine sécurité de l'espace public, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une hypersécurisation de l'espace public qui s'articule aux deux autres dangers pour créer donc des zones bien délimitées que l'on pourrait sécuriser. Et là, ça va s'appliquer à tout, bien sûr, puisqu'on a vu que ça s'appliquait même aux manifestations syndicales où on a créé une sorte de fan zone autour du bassin de l'Arsenal pour faire défiler des syndicalistes et des manifestants en rond. Donc, et ça, tout cela vise à créer une illusion de contrôle total. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sécuriser, je ne dis pas que les menaces aujourd'hui ne sont pas lourdes et n'existent pas, mais simplement que dire qu'il faut mettre toujours plus de caméras, plus de policiers, plus c'est donner aux gens l'illusion que tout peut être absolument contrôlé, sécurisé, etc., ce qui n'est pas vrai. ce qui est totalement impossible. L'État n'a pas de possibilité de maîtrise totale de toutes les rues, de toutes les places, de toutes ces villes. Voilà, on peut peut-être le regretter, pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une impossibilité.
Vous faisiez allusion aux fan zones, Alice Béja, ce qui me fait penser à un article du Parisien sur la fin des fan zones et le soulagement des résidents du Champ de Mars à Paris après l'Euro 2016, où une des habitantes faisait part de son agacement à une journaliste en lui disant « Les gens pensent que ce quartier n'est occupé que par des gens inactifs, des retraités ou d'autres, des rentiers qui peuvent partir quand ils le veulent dans leur résidence secondaire. » Ça pose la question du préjugé social dans cette approche de l'espace public, sans encore parler d'appropriation. Qu'est-ce qu'il en est du préjugé dans le cadre de l'espace public et quelle est la conséquence de ces préjugés sur la conception que l'on a d'un espace public et de ses occupants aujourd'hui? Stéphane Tonnelin, sur cette question.
Oui, alors, la question des habitants, hein, de cette habitante est intéressante, notamment par rapport aux préjugés, puisque cette idée de sécurisation de l'espace public tend à se débarrasser des habitants qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'on ne délègue pas aux habitants une partie de cette sécurité. Or, en fait, de tout temps, les quartiers ont eu des réseaux d'interconnaissance assez importants qui leur ont donné à chacun des identités différentes. Et les étrangers qui s'y aventurent sont assez rapidement repérés. Ce que ça veut dire, c'est que l'espace public des quartiers en général, que ce soit en banlieue, dans les villages ou en centre-ville, ont toujours été partagés d'une certaine manière entre la puissance publique de l'État et les habitants. Or, aujourd'hui, on aurait tendance à penser que cette sécurité, elle n'est le devoir que de l'État. Et de fait, à transformer les habitants eux-mêmes en personnes dont il faudrait se méfier ou alors se débarrasser. Et donc à transformer en espace anonyme tous les espaces de la ville. Et donc c'est cette conception anonyme de l'espace public qui prend le dessus. Or, c'est assez faux par rapport à l'histoire des villes, c'est-à-dire que les quartiers ne sont pas si anonymes que cela. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et donc, une fois qu'on admet ça, et les sociologues américains, par exemple, ne se limitent pas à la division entre espace privé et espace public, mais rajoutent entre les deux l'espace du quartier, hein, comme un dégradé, comme ça, entre le public et le privé, et disent, il faut pas s'étonner si, quand on est étranger dans un quartier, on se fait remarquer. Si on arrive comme un pauvre dans un quartier riche, ça se voit, ou comme un blanc dans un quartier noir, ça se voit aussi. Mais le problème n'est pas de se faire remarquer, le problème est de se faire d'avoir une discrimination contre soi. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir des pensées contre les étrangers à leur quartier, je veux dire, mais on peut les empêcher de prendre des mesures contre eux.
Est-ce que l'espace public d'aujourd'hui est majoritairement dans ce contexte dans lequel on est en train qu'on est en train d'évoquer en ce moment est principalement discriminatoire, Chris Blash, sur cette question?
J'ai envie de dire qu'il est de plus en plus discriminatoire d'une certaine façon. Alors je ne sais pas d'ailleurs si on peut mesurer ça de cette façon-là, mais quand je parlais tout à l'heure de résidentialisation et de rétrécissement de l'espace, et aussi au regard de ce qui vient d'être dit et que j'expliquais aussi tout à l'heure sur le fait que quand les gens sont dans l'espace public, ils le vivent, ils l'activent aussi cet espace public. C'est-à-dire que si je vous rencontre dans l'espace public, on se connaît, et si je vous croise encore demain, ce réseau de connaissances tisse quelque chose. Mais dès lors qu'on va se retrouver l'une et l'autre enfermés dans nos zones, cette reconnaissance va se perdre. Donc, je trouve qu'il y a une responsabilité politique quand même à nous faire perdre, à vouloir nous faire... quelque part pour mieux pouvoir nous contrôler, pour pouvoir mieux contrôler les foules, pour éviter le chaos dont parlait Hannah Arendt.
Concrètement, cette
tentative de perdition, à vouloir trop contrôler le chaos, ça fait que nous ne sommes plus dans l'espace public, donc nous n'avons plus le contrôle sur ces zones et nous confions le contrôle à d'autres. Qu'on revient à la panoptique dont je parlais tout à l'heure, et on n'a plus du tout de possibilité d'articuler cette présence humaine qui va garantir finalement une forme de sécurité. Donc c'est préjudices, ils sont à destination de tous et de toutes. Les femmes vont se retrouver en difficulté parce qu'elles vont se retrouver dans des rues désertes, parce qu'elles seront des rues qui sont obturées par des grilles, par des volets, etc. Et donc une rue déserte, on n'a pas envie d'y rester. D'autant plus qu'on aura reçu des injonctions qui nous diront « mais la rue est dangereuse pour les femmes ». Donc, à partir de là, la rue va devenir extrêmement compliquée à vivre.
Vous travaillez d'ailleurs beaucoup sur ce stéréotype selon lequel l'espace public est plus dangereux pour les femmes que l'espace privé, alors que dans les faits, dans les chiffres, ce n'est pas forcément vrai.
Ce n'est pas forcément le cas. On peut regarder les travaux de Marie-Hélène Libert, qui explique ça très bien, d'ailleurs, hein, sur les questions de violence. Donc, mais on est bien dans des normes que l'on a intégrées, c'est-à-dire que en tant que femme, on a entendu depuis qu'on est toute petite qu'il fallait faire attention, qu'on ne doit pas forcément sortir tard le soir, pas seule, etc. Donc toutes ces questions-là font que dans cet espace qui est désertifié, eh bien les personnes qui se sentent les plus fragiles, comme je le disais tout à l'heure, qui se sentent les plus fragiles parce qu'elles ont reçu ces injonctions, ne vont plus aller dans l'espace public. Donc ces discriminations, elles sont fortes. Elles sont fortes aussi parce que il y a aussi des discriminations par rebond, c'est-à-dire que à travers ça, on dit qui va être un danger pour les femmes ? Eh bien, ça va être les personnes qui traînent dans l'espace public. Donc on va à partir de là. Avoir des représentations autour des personnes sans-abri, des personnes réfugiées qui campent et qui vont représenter des dangers. On voit qu'il y a une escalade contribuer à rejeter les communautés les unes contre les autres. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux, et nous ce qu'on cherche à faire dans nos travaux, c'est ramener un cercle vertueux, à rendre plus vivant l'espace public, à ramener des actions où on ramène une vie plus sensible, ramener le sensible dans l'espace public, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut respirer dans l'espace public, comment est-ce qu'on peut l'écouter, comment est-ce qu'on peut le vivre autrement. Et puis, ouvrons les grilles. Voilà.
On va le voir dans un instant. Avant cela, je voulais poser une question à Alice Béja. Chris Blash, à l'instant, parlait de reconnaissance, de la manière dont on peut se reconnaître quand on se croise dans un espace public et ne plus vraiment avoir d'interaction entre nous dès lors qu'on est chacun dans sa zone. Vous, dans l'article que j'ai cité au début de l'émission, que vous avez écrit, l'espace public, le bien commun par excellence, vous dites l'espace virtuel qui se superpose souvent à l'espace matériel. Et si chacun se promène aujourd'hui avec nous, avec des écouteurs, ou en tapotant sur un écran, les rencontres anonymes, les altercations violentes, les situations absurdes restent une réalité, celle de la rue, loin des cercles d'amis virtuels que l'on se choisit tout seul. Qu'est-ce que ça implique, ces nouveaux modes de relations, d'altercations, de rencontres dans l'espace public, sur sa formation, sur son évolution ?
Je vais répondre dans un instant. Je voulais juste revenir sur ce qui avait été dit auparavant sur la question de l'équilibre entre l'ordre public assuré par la puissance publique et par les citoyens eux-mêmes. C'est effectivement un équilibre qui est très très difficile à atteindre, hein, puisque aux États-Unis on a en quelque sorte le problème inverse, à savoir les neighborhood watches, donc les rondes de voisinage qui peuvent parfois virer à l'exclusion totale de l'étranger, voire à la mort violente d'une personne qui ne semble pas appartenir au quartier. Donc justement, le quartier, il est à la fois un facteur de cohésion sociale qui est important, et un facteur de cohésion sensible, comme vient de le dire Chris Blash, qui est absolument indispensable, et en même temps, peut être aussi source d'exclusion, voire source d'exclusion violente, pour laquelle il y a besoin de l'intervention d'un tiers. En ce qui concerne la superposition entre l'espace réel et l'espace virtuel, tout simplement parce que si vous vous promenez avec des écouteurs dans la rue en regardant votre portable, vous risquez de vous cogner contre quelqu'un, et donc ça va provoquer une rencontre, que vous le vouliez ou non, et que vous soyez ou non sur Facebook en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Mais plus sérieusement, ce qui est très intéressant dans notamment, pas seulement bien sûr, mais les mobilisations politiques qu'on observe depuis 5-6 ans, évidemment on pense aux printemps arabes, on pense au mouvement des indignés, au mouvement Occupy, plus récemment au mouvement Nuit Debout. Au départ, dans les analyses des printemps arabes, on disait beaucoup que c'était des mobilisations qui avaient été créées grâce à Twitter, grâce à Facebook, et que donc c'était la première fois que les outils numériques avaient permis des mobilisations politiques. En réalité, les chercheurs eux-mêmes ensuite ont adopté, pour la plupart d'entre eux, une vision un peu plus complexe, à savoir justement de l'interaction capitale entre ces deux formes, entre l'espace, entre la place publique et l'espace virtuel, et que l'un n'allait pas sans l'autre. Et que justement, c'était deux types de sociabilité qu'on avait eu tendance à considérer comme excluantes, hein, de dire si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça veut dire que vous n'avez plus de véritables amis, ça veut dire que vous ne rencontrez plus personne, alors qu'en réalité, dans ces mouvements-là et dans d'autres instances, on a bien vu qu'elles étaient extrêmement complémentaires, hein, qu'il s'agisse de Twitter pour les printemps arabes, de Periscope pour Nuit Debout ou pour d'autres manifestations. Donc c'est ça en fait qui a changé dans la compréhension qu'on a de cette relation entre espace public et espace virtuel, et c'est non plus une vision d'exclusion, mais une vision de complémentarité.
Cette vision de complémentarité qui vient remplacer peu à peu cette vision d'exclusion via notamment l'utilisation de réseaux sociaux, c'est quelque chose aussi avec lequel, que c'est une opinion, c'est une pensée que vous partagez, Stéphane Tonelin ?
Oui, il me semble que il peut y avoir des complémentarités très intéressantes entre la rue et les réseaux sociaux. À New York, par exemple, une association féministe, Ola Back, a proposé aux femmes qui se font toucher dans le métro de prendre des photos de leurs agresseurs et de les poster sur leur forum avec un contact direct vers le conseil municipal de la ville. Et donc, ça, c'était une occasion intéressante pour ces femmes de communiquer, de faire grandir cette question de harcèlement sexuel dans le métro vers un public plus large que celui du wagon. Or, c'est ça qui est intéressant dans la publicité en général, hein, c'est qu'une question ne devient véritablement publique qu'à partir du moment où elle commence à déborder du contexte dans lequel le problème a survenu. Et donc, il me semble que dans tous ces événements comme les printemps arabes, Occupy ou la nuit debout à Paris, il y a une prise de conscience de cette complémentarité et du coup, les participants essayent d'élargir le cercle des personnes concernées afin de constituer un véritable public au sens, pour le coup, de la sphère publique du terme. Et donc, de voir une congruence comme ça entre l'espace de l'expérience dans l'espace physique et l'espace de la réflexion dans l'espace virtuel.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
À qui appartient l'espace public ? On essaie de répondre à cette question ce soir avec Chris Blash, consultante socio-ethnographe, cofondatrice de l'association Genre et Ville, avec la maîtresse de conférence à Sciences Po Lille, Alice Béja, et l'ethnographe Stéphane Tonla. Est-ce que c'est en cherchant à comprendre cet espace public qu'on peut se le réapproprier, Chris Blash ?
Ben oui, je pense que c'est la première chose à faire. À la question qu'on nous pose très souvent, parce que nous travaillons beaucoup avec les municipalités, donc les élus ou les personnes qui travaillent dans les villes vont nous dire, mais alors quelles sont très vite vos solutions ? Et nous, la chose que l'on répond, c'est la solution, c'est de bien poser la question. Et bien poser cette question, c'est prendre du temps et prendre du temps pour ensemble évaluer ce qui se joue dans cet espace public, notamment en termes d'égalité, mesurer l'absence des femmes dans l'espace public, ou pas vraiment leur absence, mais mesurer le fait que les femmes n'occupent pas l'espace, mais s'occupent dans l'espace, comme nous aimons à le dire. Et donc elles n'y sont pas dans une fonction de flâneuse, elles y sont plus exactement dans des fonctions précisément, où elles vont faire les courses, s'occuper des enfants, etc. Donc tout ce travail-là est une approche de sensibilisation que nous menons sur le terrain. Et c'est vivre l'espace public, c'est faire des marches dans l'espace public, c'est mener des ateliers dans cet espace, comprendre...
Quel genre d'atelier, par exemple ?
Dans les ateliers qu'on a pu mener. Alors, dans les marches, je parlais de sensibilité tout à l'heure, nous on fait des marches sensibles qui ont deux rôles. Le premier rôle des marches sensibles, c'est de précisément retrouver l'ensemble de ses sens, donc c'est de regarder, d'écouter, de sentir et de redécouvrir son quartier, plus uniquement comme un diagnostic en marchant, comme ça se pratique beaucoup et dans quel cadre on va ne trouver finalement que des choses qui ne vont pas. Nous, on essaie d'identifier ce qui ne va pas aussi, mais aussi ce qui peut bien aller dans un quartier, ce qui le rend vivant, pourquoi on l'aime, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas à tel endroit et pas à tel autre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est aussi important dans la notion de repartager l'espace public, c'est que nous faisons des jeux de rôle. C'est-à-dire que nous demandons à chaque personne qui participe à ces marches sensibles de se choisir une autre identité que la sienne. Et là, on va vraiment dans de belles découvertes. Et les résultats qu'on a eus avec les personnes qui étaient sur le terrain...
Essentiellement des femmes.
Alors, ça peut être des femmes et des hommes, parce que précisément, il y a parfois une vertu à utiliser des groupes non mixtes pour que les femmes puissent s'exprimer. Mais comme là, on passe par l'intermédiaire d'un changement de rôle, on peut avoir des femmes et des hommes qui vont d'ailleurs pas forcément changer de sexe, mais qui peuvent changer d'âge ou qui peuvent aussi changer de sexe. Et à travers ça, on peut avoir des réalisations de ce qui se passe pour l'autre, une redécouverte de ce qui se joue sur ces quartiers et surtout une réappropriation de l'utilisation de l'espace public. Et on a eu des retours comme ça, notamment à Nantes, il y a une jeune femme qui est venue qui a refait des marches toute seule et qui nous a encore écrit il y a très peu de temps en disant mais c'est absolument extraordinaire parce que aujourd'hui j'ose prendre mon vélo, je pars en forêt mais j'osais plus faire ces choses-là, j'ai repris confiance en moi mais parce qu'on l'a commencé seul en groupe et qu'il y a eu cette articulation. Donc c'est une réappropriation ensemble et puis individuelle de ces espaces.
Alice Béja, sur cette question, vous vouliez réagir?
Oui, je trouvais vraiment très intéressant ce que disait Chris Blash sur ces initiatives et aussi parce qu'elles permettent de multiplier les points de vue et les usages de l'espace public. Parce que ce à quoi on assiste aussi aujourd'hui, ce dont on parlait au début de l'émission, c'est le fait de réduire des espaces à un seul usage. Si vous allez dans un endroit pour uniquement regarder un match de foot ou, je sais pas moi, faire un marché de produits régionaux, et tous ces usages en quelque sorte réglementés empêchent de faire l'expérience de la pluralité des espaces publics qui au départ ont cette fonction-là. C'est-à-dire que si vous prenez une place, par exemple pour ceux qui connaissent le parvis de Beaubourg, du centre Pompidou en plein centre de Paris, vous pouvez y aller pour regarder quelqu'un qui fait du diabolo ou un cracheur de flammes, pour prendre votre déjeuner sur le parvis, pour admirer le bâtiment de l'Endopiane, enfin voilà, il y a tout un tas d'usages différents qui peuvent être faits. Or, aujourd'hui, c'est cette diversité du sensible de l'espace public qui est en train de se perdre, ou en tout cas qu'on voudrait réduire à des usages uniques.
C'est aujourd'hui ce mono-usage, cette pensée unique de l'usage de l'espace public, Stéphane Tonnelat, qui tendrait à nous en faire perdre le contrôle?
Oui, c'est vrai qu'il y a eu une tendance. Moi, ça me fait tout de suite penser à la conception des espaces publics urbains. Mmh. Donc, en France, on a une tradition de conception des espaces publics qui est relativement récente, puisqu'elle date, en fait, dans sa grande majorité, des années de la décentralisation, donc à partir des années 80, lorsque les villes se sont vues confier la mission d'urbanisme par l'État. Mais cette mission est arrivée avec assez peu d'expérience, finalement. Et donc, très vite, c'est des pratiques, disons, plutôt esthétiques, qui ont pris le dessus, comme retravailler l'image de la ville, refaire des centres-villes agréables à regarder, par exemple, et donc pas tellement des espaces à utiliser. Or, plus récemment, on s'est aperçu que c'était pas une très efficace technique, et donc on a maintenant des techniques un peu plus participatives qui sont mises en place un petit peu partout pour essayer d'intégrer à la fois les futurs usagers dans le processus de conception, mais aussi de penser des espaces qui soient multi-usages. Voilà. Et donc aux États-Unis, par exemple, il y a un bureau très connu d'urbanisme qui s'appelle Project for Public Space, ou le projet pour les espaces publics, qui a une règle qui s'appelle la règle des 10. Ils disent qu'il faut que dans le moindre espace public, il y ait au moins 10 usages prévus.
Alors, sur cette question de l'urbanisme et du paysage de l'espace urbain, Alice Béja, vous dites que dans votre article que si l'architecture et l'urbanisme posent les bases de l'utilisation des espaces publics, ils doivent aussi laisser de la marge du jeu pour l'appropriation de ces lieux par le public.
Oui, c'est exactement ce qui vient d'être dit, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'une part, on ne peut pas prévoir l'usage qui sera fait des lieux. Hein. Il y a des détournements. Hein. Je suis pas complètement certaine que les concepteurs de Beaubourg et du Parvis qui se trouvent devant avaient prévu les cracheurs de feu. On ne peut pas tout prévoir et on ne peut pas tout contrôler. Je voudrais simplement rappeler pour les auditeurs qui ne sont pas parisiens que, par exemple, à Paris, il n'y a pas de vraie place. Enfin, je veux dire, la place de la République a été récemment refaite et donc il y a un espace au centre de la place. Mais si l'on pense aux grandes places parisiennes comme la place de la Bastille ou la place Charles de Gaulle Étoile, c'est des ronds-points. C'est pas des places. Donc là, encore, en termes d'utilisation par les piétons, les habitants, les résidents, c'est quelque chose qui a été pensé pour les en exclure. Et donc c'est vrai que maintenant on est passé à une logique de plus grande intégration des habitants, des citoyens dans cette conception de l'espace public. Mais bon, il y a encore en France quand même pas mal de travail à faire, de travail politique à faire sur ces questions-là.
Vous dites qu'il n'y a pas de place, mais il y a des occupations de place à Paris et en France et dans le monde. Stéphane Tonnelat, vous dites que quand les discriminations discriminations, les violences sont visibles, un public peut se former pour y réagir. Et vous parlez notamment de cette confrontation entre les valeurs d'une sphère publique déterritorialisée et celle de l'espace public de circulation, de l'espace public matériel. Comment la contestation d'un espace public peut aboutir à le transformer ?
Il me semble que un des intérêts de l'espace public du tout venant, disons de l'anonymat en ville, est sa capacité à exposer un peu la diversité du corps social. Et donc lorsque certaines des catégories de la population sont dans ces espaces-là victimes de discrimination, soit que ce soit par la violence, soit par des interdictions, cela peut devenir visible. Voilà. Et donc, il me semble qu'il y a dans l'espace public un rôle de mise en visibilité de certains conflits, de certains problèmes qui sont par ailleurs existants ailleurs hein, dans la société, mais qui là deviennent plus perceptibles.
Il y a un rôle, mais qui doit l'avoir ce rôle, Chris Blash?
Alors c'est assez intéressant parce que effectivement dans ce qui vient d'être dit et dans ce qui peut être mis en visible, nous ce qu'on observe à travers tout ce qui a été mis en œuvre et encore ce qui est mis en œuvre actuellement dans les rénovations urbaines, c'est quand même une forte stérilisation de l'espace avec une élimination des recoins, avec si on regarde la place de la République par exemple, c'est une place très lisse qui permet un certain nombre de choses mais qui en même temps reste une place lisse et minérale et qui n'autorise pas effectivement à pouvoir quelque part observer des différences entre les personnes. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, nous travaillons justement sur la rénovation des 7 places parisiennes puisqu'il y a une rénovation qui s'est enclenchée sur les places parisiennes.
Dans le cadre de Jean Réville ?
Dans le cadre de Jean Réville, oui, tout à fait. La mairie de Paris a souhaité rénover 7 places parisiennes, dont la place de la Bastille justement.
Je rappelle juste aux auditeurs qui nous rejoindraient tout juste que Jean Réville, donc, c'est l'association que vous avez cofondée et qui travaille sur ces espaces publics à travers la thématique des inégalités entre les hommes et les femmes
et l'urbanisme. Voilà, donc nous cherchons à travailler précisément sur l'urbanisme et à travers ce prisme. Et la question de genre a été introduite précisément pour enrichir ces questions-là, pour voir comment on pouvait remettre de la complexité sur l'utilisation de ces places. Et aujourd'hui, on voit que dans les tests qui commencent à être faits sur les places, il y a des tests qui se font en ce moment sur la place des fêtes notamment, on voit des groupes d'animation de l'espace qui commencent à vouloir intégrer les habitantes et les habitants, à rendre ces espaces moins monolithiques, à voir si on peut avoir des espaces plus complexes. Je peux prendre d'autres exemples. On voit ça à Copenhague. Il y a des endroits qui ont été faits à Copenhague. Je pense à... j'oublie tout d'un coup le titre, le nom de cet endroit, Likkeri, je crois que ça s'appelle, où on a eu une contribution de l'ensemble des personnes qui habitaient à côté pour composer cet espace, qui veut dire que chaque banc, par exemple, représente une des cultures qui sont représentées par les habitants qui sont autour. Donc on voit bien que cette complexité, on peut la ramener et que pour ça, il faut continuer ce travail de sensibilisation dont je parlais tout à l'heure auprès des élus. À travers la gestion des budgets, qu'est-ce qu'on fait des budgets ? À qui vont ces budgets dans l'espace public ? Cette question des espaces d'exclusivité dont on a parlé tout à l'heure, elle est très liée aux questions budgétaires, par exemple. Quand on fait un stade, ça veut dire qu'on dédie une somme d'argent très importante pour la moitié de la population uniquement, et encore pas tout à fait la moitié, c'est-à-dire des hommes qui vont jouer au foot.
Hein. Pas que des hommes.
Pas que les hommes. Mais reprenons les chiffres. Aujourd'hui, puisque j'ai suivi par exemple les équipes de foot féminines professionnelles, si vous prenez l'équipe du PSG, n'a pas de stade. Elle n'a pas le droit de jouer au Parc des Princes. Hein. Donc ça reste quand même très marginal. L'occupation des femmes, même si ça augmente, reste très très marginale. Donc il est vraiment très important que cette conscience-là soit prise. Et nous, on le fait à travers des outils. C'est-à-dire montrer que les budgets sont différenciés, montrer qu'il y a par les statistiques, que les usages ne sont pas à destination de tout le monde. Et à partir de là, on commence à pouvoir articuler des choses. Je reviens bien à poser la question.
Alors, sur cette notion d'occupation de la place, j'avais cité en début d'émission Pascal Lebrun-Cordier, créateur des zones artistiques temporaires à Montpellier, qui dit dans un article du magazine Politis que les attentats de janvier et de novembre 2015, pour lui, ça a marqué le début, le renouvellement de l'occupation de la place, une forme d'ostentation de notre capacité à habiter ensemble l'espace public et à vouloir en faire un projet politique et culturel. Qu'est-ce qu'il manque pour faire durer ces projets d'occupation de place à l'ISBEJA?
Alors écoutez, d'une part, je suis pas certaine qu'ils aient forcément vocation à durer. Ils peuvent avoir des prolongements ensuite politiques, sociaux, très 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 différents. Si on pense à Occupy Wall Street, par exemple, il y a eu des prolongements qui n'étaient pas d'ailleurs du tout forcément prévus par les organisateurs, des prolongements dans des mouvements sociaux au sens plus traditionnel, par exemple dans les mouvements en faveur de l'augmentation du salaire minimum aux États-Unis, qui ont été accompagnés par Occupy et aussi par des syndicats, des prolongements plus strictement politiques, plus traditionnels, même si évidemment la candidature de Bernie Sanders n'est pas directement liée à Occupy, mais il n'empêche que beaucoup des partisans de Bernie Sanders ont été des militants de Occupy. Donc voilà, moi ce qui me paraît intéressant dans ces mouvements d'occupation, c'est d'une part effectivement la question de la matérialité du lieu, c'est-à-dire que c'est des mouvements auxquels on a pu reprocher leur dimension assez vague, justement, n'ayant pas de
revendication,
mais qui s'attachait beaucoup à comment on occupe un lieu, comment on reconstruit ou on construit de la sociabilité, mais aussi des toilettes, des cantines, des ateliers divers et variés, et donc comment on recrée quelque chose autour de la matérialité d'un lieu en s'y adaptant, justement, la place de la République étant très très minérale pour les ateliers construction écologique, c'était moyennement facile. Mais voilà, toutes ces petites choses-là, avec une dimension, bien sûr, de revendication politique très diverse, dont à mon avis il est trop tôt pour faire le bilan. Dire que Nuit Debout n'a rien donné aujourd'hui en août 2016, ça me paraît pas très constructif dans la mesure où voilà, peut-être que dans 5-6 ans il y aura un autre mouvement ou une candidate ou un candidat qui se réclamera pas forcément de Nuit Debout, mais on pourra retrouver une certaine filiation. Les mouvements sociaux et politiques n'accouchent pas forcément dans la minute d'une concrétisation ou d'une traduction démocratique plus traditionnelle, disons.
Stéphane Tonla, sur cette question, comment est-ce que la manière de s'interroger sur la façon d'occuper une place peut reconstituer, remodeler l'espace public à terme?
Oui, alors il me semble qu'effectivement ce que tentent les gens qui se participent à l'événement Nuit Debout, c'est peut-être de rendre la place plus publique, c'est-à-dire de construire un public pour cette place à partir duquel...
Et qui leur appartienne pour le coup. Et,
non, c'est pas forcément une question de propriété ou d'appartenance. C'est une question d'occupation plutôt, ou d'utilisation. Et donc, pour un certain temps, disons, un public s'est constitué dans un espace qu'il a contribué à rendre plus public encore, autour de questions que eux-mêmes essayent de rendre publiques, c'est-à-dire de toucher une opinion publique. Ces questions sont autour de la Sixième République, autour des inégalités, il y a beaucoup de questions qui ont été traitées là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis promené donc sur la place de la République cet été, et puis juste à côté, il y a le canal Saint-Martin. Ce canal, lui, avait beaucoup plus de gens qui n'étaient pas là pour des questions politiques, mais simplement pour boire un coup. Et là, c'est intéressant de voir que le regain de sociabilité dans l'espace public dont parle Pascal Cordier, finalement, n'a pas forcément des débouchés politiques. Et en l'occurrence, j'ai une collègue qui parle de la tyrannie de la convivialité, Michel Jollet. Ça va assez bien avec cette idée que l'État finalement fournit un espace prêt à utilisation duquel on n'a pas tellement à s'occuper. Et donc moi je verrais deux tendances contraires en ce moment dans l'espace public. Une plutôt du côté de la Nuit Debout qui essaie de republiciser l'espace et une autre au contraire qui en fait un espace de consommation dont finalement on s'occupe assez peu.
Est-ce qu'il s'agit de republiciser l'espace, pour reprendre le terme de Stéphane Tonla, Chris Blash, ce sera la dernière question.
Oui, je crois que c'est un point important. La question de l'espace commercial est toujours très forte. C'est vrai qu'il y a une forte appréhension du commerce. Et à partir de là, pour nous, ce qui est important, c'est de plutôt ramener ce qui va créer du lien, ce qui va créer de l'échange. Je reviens toujours à la même chose. C'est comment est-ce qu'on va refaire ces tac au tac, ces réponses, ces échanges pour ramener de la complexité. Et c'est vrai que la réponse commerciale aujourd'hui est sans doute souvent la plus facile, mais pas forcément la plus efficace à mon sens.
Merci beaucoup beaucoup à tous les trois, Chris Blash, Alice Béja, Stéphane Tonla, d'avoir été avec nous pour répondre à cette question: à qui appartient l'espace public? Vos bibliographies, vos références sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été, une page où vous pouvez aussi retrouver un lien pour réécouter, podcaster cette émission. Merci à toute l'équipe du Grain à Moudre d'été, Chloé Leblanc, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti, Tanguy Omri, Milena Elig à la réalisation, et ce soir à la prise de son, c'était Jean-Guy Lermège.